Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias et toutes les formes de culture. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera aux alentours de 10h20. Auparavant, à 10h, il y aura Bertrand Chamerois et son écran de veille, puis Eva Rock pour son zapping du lendemain. Et avant cela, dans une minute, le journal des médias de Charles Decamp et les audiences avec une surprise. Je ne vous dis que ça. Notre infomédia va scruter aujourd'hui les nouveautés de France Télévisions. Pas moins de 9 nouvelles émissions qui arriveront à l'antenne dans un peu plus de 2 semaines. Détail avec Florent Dumont. C'est le nouveau directeur des antennes. C'est sa première rentrée à ce poste et sa première fois dans Culture Média. Et puis, on va parler de camionneuses. Elles sont les héroïnes de la nouvelle émission de Sister, Les Reines de la Route. Mais contrairement aux clichés, ces camionneuses, comme Lexi, notre invitée, sont très féminines. Et ce qui ne gâche rien, elles conduisent des engins de 44 tonnes. Nous serons également avec le producteur de l'émission, Renaud Rard. Oui, l'ancien complice de Christophe de Chavannes. Enfin, le journaliste et écrivain François Reinhardt, qui revisite encore l'histoire avec la plus grande rigueur, comme toujours. Cette fois, il s'intéresse à l'Amérique et à l'Océanie. Ça s'appelle « La grande histoire des nouveaux mondes » et il est également très doué pour raconter les petites histoires. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour Charles.
La fronde à Canal+, le retour de Michel Drucker, la rentrée chargée de TF1 et France Télé, un duel en prime ce soir et des bonnes nouvelles pour terminer.
Et j'ai annoncé la surprise, on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Alors la surprise, elle n'est pas en première position. En première position, c'est France 3 et le téléfilm inédit 100% bio de Fabien Onteniente, vous en parliez hier.
C'était notre invité, on a fait plus qu'en parler.
Voilà, 4 700 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 19,7% du public. TF1 pointe en deuxième place avec le retour de la série américaine SWAT. Les deux épisodes inédits ont réuni en moyenne 4 100 000 personnes, soit 17% du public. C'est un score correct, on va y arriver. La surprise, c'est que France 2 devance M6. France 2 est troisième avec Les Pouvoirs Extraordinaires du Corps Humain, en forme à 2 500 000 personnes et 11,5% du public, tandis que Lego Master s'effondre sur la 6 en troisième semaine. Alors c'est marrant parce que l'émission avait bien tenu entre la première et la deuxième.
Elle était même en tête à chaque fois.
Voilà, là, elle a perdu 1 300 000 personnes à 2 500 000. Seule consolation, M6 est leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 25% de part d'audience. C'est un très bon score, mais c'est quand même 5 points de moins que la semaine dernière.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une scène assez incroyable hier, une scène qui témoigne de la colère qui monte dans les rangs du service des sports de Canal+, près de 2 semaines après le licenciement de Stéphane Guy.
Oui, plusieurs dizaines de journalistes sont restés immobiles et silencieux devant le siège du groupe Canal+. Pas un mot n'a été prononcé pendant les 10 minutes qu'a duré le rassemblement. Par ailleurs, les manifestants portaient tous un masque à l'effigie du commentateur sportif pour afficher leur soutien, mais aussi par peur d'être identifiés et sanctionnés. Dans un communiqué, le service des sports estime qu'un climat de peur règne dans le groupe et que n'importe qui peut être licencié pour un mot de travers. De son côté, Stéphane Guy a officiellement contesté la validité de son licenciement. Le groupe lui reproche un manquement à son obligation de loyauté selon Les Jours.
Grosse journée hier avec les conférences de rentrée de TF1 et de France Télévisions et le groupe public a profité de l'occasion pour officialiser le retour prochain de Michel Drucker.
Il devrait finalement avoir lieu au printemps. C'est l'animateur lui-même qui l'a annoncé hier quand le numéro 2 du groupe, Stéphane Sidbon Gomez, a évoqué leur discussion.
On s'est mis d'accord, toi et moi, tu seras avec nous au printemps.
Oui, au printemps, voilà, j'aurai terminé ma rééducation, j'espère au printemps, vacciné, sans masque, détendu, rêvant un peu, et avec les théâtres et les cinémas ouverts à nouveau, hein, parce que les artistes, ben, ils attendent qu'une chose, c'est revenir nombreux au studio Gabriel dans Vivant Dimanche.
Voilà, Michel Drucker n'était pas sur place. De toute façon, c'était une visioconférence. Depuis la rentrée de septembre, à défaut d'inédit, France 2 propose chaque semaine des rediffusions des 2 émissions de Michel Drucker. Vivement dimanche et vivement dimanche prochain. Côté programme, puisque c'était aussi l'objet de cette conférence, le groupe a annoncé l'arrivée de 9 nouveautés sur ses chaînes cette saison. France Télé va surtout renouveler ses deuxièmes parties de soirée et ses week-ends en privilégiant 3 thématiques, le bien-être, l'art de vivre et l'information. Et Philippe, vous allez détailler tout ça dans un instant avec Florent Dumont, le directeur des antennes de France Télévisions.
ses 9 nouveautés, justement. De son côté, TF1 présentait également ses nouveaux programmes, mais pas seulement.
Non, la Une a également dévoilé son nouvel habillage. Il n'avait pas changé depuis 7 ans. Nouveau jingle pub, nouvelle transition, plus douce et plus subtile, et même nouvelle façon de présenter le logo. Alors vous verrez par exemple le logo pub s'afficher en transparence sur des images du programme que vous êtes en train de regarder avant que les spots publicitaires ne commencent. L'objectif affiché, c'est de monter en gamme en fluidifiant l'antenne et en gommant les démarcations entre pub et programme ou bande-annonce.
Et alors maintenant, en termes de programme, qu'est-ce qui a été annoncé hier ?
TF1 parie plus que jamais sur la fiction française et elle va cocher toutes les cases. Les faits divers, avec une fiction sur l'affaire Grégory et une autre consacrée à Michel Fourniret. Les sujets sociétaux, comme la transsexualité ou le handicap. Les séries policières, avec HPI au potentiel intellectuel, nouveauté portée par Audrey Fleurot. Et des comédies, sans oublier, je te promets, l'adaptation très attendue de la série à succès This Is Us. Côté divertissement, toutes les marques fortes de la chaîne seront de retour. De Koh-Lanta à The Voice, avec une édition All-Star du télécrochet à la rentrée, ou encore, bien sûr, Mask Singer.
TF1 toujours, et c'est la première grosse nouveauté de la rentrée, et ça n'a pas été annoncé hier, mais on le savait depuis quelques semaines. La Une lance ce soir sa toute première série italienne en prime time.
Voilà, elle s'appelle Doc, et la chaîne y croit beaucoup. En Italie, elle a réuni jusqu'à 8,5 millions de téléspectateurs. C'est tout simplement le plus gros succès de l'année chez nos voisins. Ça reste malgré tout un vrai pari pour TF1. Jusqu'ici, la chaîne ne s'est jamais aventurée en dehors des séries américaines et de ses propres créations françaises. Mais pour le directeur des programmes du groupe TF1, Xavier Gandon, cette prise de risque s'explique aussi par l'évolution de l'offre de fiction européenne.
Cette fiction européenne, à l'instar de la fiction française, elle progresse, elle innove. Et là, finalement, on a des créateurs italiens qui ont réussi à créer une série qui, nous, on trouve meilleure que beaucoup de séries américaines, qui réussit à réinventer un peu le genre médical. Et voilà, on a tous dévoré les épisodes dans les équipes. Donc on s'est dit, quand c'est aussi bien que ça, on l'achète et puis on la propose à nos téléspectateurs en prime time. Et on espère qu'ils seront aussi enthousiastes que nous et bouleversés par cette nouvelle série.
Doc, c'est l'histoire d'un médecin brillant et arrogant qui se fait tirer dessus par le père d'un patient. Quand il se réveille, il a oublié les 12 dernières années de sa vie. Il ne se souvient plus qu'il a divorcé, qu'un de ses deux fils est mort et il doit réapprendre à exercer son métier. Rendez-vous ce soir à 21h05 sur TF1 pour les deux premiers épisodes.
Ouais, et nous recevrons demain Fabrice Bailly qui s'occupe notamment des acquisitions au sein du groupe TF1. Le focus programme du jour, Charles, c'est la fiction La Fugue que France 2 va diffuser ce soir.
Valérie Carcenti incarne une mère dont la fille décide de fuguer, un rôle bien loin de celui de Liliane dans Scène de ménage. Face à des policiers pas vraiment pressés de l'aider, elle tente de la retrouver tout en essayant de comprendre pourquoi elle a décidé de quitter le domicile familial. C'est un sujet qui tenait à cœur à la scénariste de ce téléfilm, Olga Vincent. Elle a elle-même été confrontée à la fugue de sa fille, mais elle ne s'est pas contentée de sa propre expérience pour écrire la fiction.
J'ai travaillé avec Xavier Pomereau, qui est un psychiatre, qui a écrit énormément sur les adolescents en difficulté. J'ai été à la brigade des mineurs, j'ai été les voir, j'ai été les interviewer. Mais j'ai pas écrit cette fiction en regardant des chiffres et en disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Après, il y a des choses qui sont réalistes et qui peuvent apprendre à des gens qui ne connaissent peut-être pas le sujet des informations un peu utiles si ça vous arrive à vous. Mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer en quoi un ado qui fugue, c'est un coup de poing dans une famille. Sa mise en danger devient en fait celle de chacun des proches. Le cercle trinque, éclate ou se ressoude, enfin tout le monde est impacté.
Dans le cadre d'une soirée continue, La Fugue sera suivie d'un débat animé par Julien Bugey à partir de 22h35.
Et Julien qu'on peut déjà retrouver à 13h sur France 2 et à 18h sur Europe et on s'en réjouit. C'est officiel, les Grammy Awards seront décalés.
Les producteurs et la chaîne CBS ont annoncé leur décision hier soir. Impossible selon eux d'organiser la cérémonie 2021 le 31 janvier prochain à Los Angeles comme prévu. La situation sanitaire est dramatique en Californie où les unités de soins intensifs sont quasiment pleines. L'équivalent américain de nos Victoire de la musique devrait désormais avoir lieu le 14 mars.
Bonne nouvelle pour les libraires, les ventes de livres ont tenu bon en 2021.
Oui, malgré les confinements et les couvre-feux, les chiffres sont quasiment stables sur un an, moins 3% seulement. Les libraires reviennent de loin, mais ils ont pu compter sur une fréquentation exceptionnelle après les deux confinements. En décembre, par exemple, le chiffre d'affaires du secteur a bondi de 35% par rapport à l'année précédente.
Et on termine ce journal avec une autre bonne nouvelle, mais cette fois pour Netflix, le carton de sa nouvelle série, Générique.
Elle s'appelle La Chronique des Bridgerton. Elle a été mise en ligne le jour de Noël et selon Netflix, elle devrait atteindre 63 millions de foyers pour ses 4 premières semaines de disponibilité, soit le 4e meilleur démarrage de l'histoire pour une série Netflix. La Chronique des Bridgerton, c'est la première production de Shonda Rhimes, la créatrice notamment de Grey's Anatomy, depuis qu'elle a signé un contrat très lucratif avec Netflix, évalué à 150 millions de dollars.
Ah oui, très lucratif, le mot est faible. Merci beaucoup Charles Decan, à demain pour un nouveau journal des médias.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Une grande table de grands écrans disposés tout autour. C'est sur un plateau télé que France Télévisions a présenté ses nouveaux programmes hier matin. On en a parlé dans le journal de Charles Decan. Conférence de presse de rentrée suivie à distance par les journalistes, compte tenu évidemment de la crise sanitaire. Et c'est de leur bureau, devant leur ordinateur, qu'ils ont assisté aux annonces des dirigeants du groupe. Une petite dizaine de nouvelles émissions qui vont arriver à l'antenne dans un peu plus de 2 semaines. Ce sera à partir du 25 janvier. Bonjour Florent Dumont.
Bonjour.
On va parler des nouveautés avec vous. Vous êtes le directeur des antennes de France Télévisions. C'est votre première rentrée à ce poste, car vous avez été nommé en septembre dernier, c'est tout frais. C'est quoi le rôle du directeur des antennes en quelques mots ?
Le rôle des antennes, c'est vraiment d'assurer la rencontre entre tous ces programmes, toutes ces nouveautés et les publics. Et donc réfléchir à la meilleure moyen de programmer ces rendez-vous, de les événementialiser, de communiquer dessus pour qu'ils rencontrent leur public et qu'ils en soient satisfaits.
Vous avez en partie répondu à ma question suivante. Il y a eu de nombreux changements à la tête de France Télévisions cet été, avant et après la reconduction de sa présidente Delphine Ernotte. Vous en savez quelque chose. Partant, la première rentrée, celle de septembre, a été assez calme. La seconde, celle-ci, celle de janvier, était la plus attendue. Comment la résumer en un mot ?
Riche, ouais. et adapté aux attentes du public, telles qu'ils nous les ont formulées dans une consultation citoyenne.
Riche ? Attends, on va parler de la consultation citoyenne dans quelques instants, mais riche, rentrée prudente, si j'en crois la presse ce matin. Changement par petites touches dans le Figaro, virage éditorial à petits pas pour Le Monde. Ça vous va ?
Oui, parce que ce n'est pas une révolution, mais vraiment une adaptation de notre offre. On a déjà beaucoup de programmes qui fonctionnent très très bien sur nos grilles, ouais. Et on veut conserver ces rendez-vous auxquels les publics sont très attachés. Et l'idée, c'est de renforcer certaines tranches, le week-end ou les deuxièmes parties de soirée, sur lesquelles notre offre était un peu plus faible et sur laquelle on veut vraiment proposer des nouveautés au public.
Donc je l'ai dit, 9 nouveaux rendez-vous sur France 2, France 3 et France 5, puisque c'est transversal, France Télévisions, oui. Essentiellement le week-end en deuxième partie de soirée, donc pas de grand carrefour d'audience. On va les détailler dans quelques instants. Qu'est-ce qui a guidé vos choix ?
C'est vraiment cette consultation citoyenne et les attentes que nous ont exprimées les publics. On leur a demandé à la rentrée de septembre ce qu'ils attendaient de l'audiovisuel public. Ils nous ont demandé davantage d'informations, davantage de programmes aussi autour du bien-être, de l'art de vivre. C'est vrai que cette année 2020 était très particulière et du coup, il faut s'adapter à ça. Davantage de culture, de connaissances. Donc, c'est vraiment ce qui nous a aidé à créer nos grilles.
Puisque vous en parlez, petite question qui pique. Pendant la consultation citoyenne, les gens ont également demandé des jeux intelligents. Ça veut dire que ceux qui sont à l'antenne ne le sont pas ?
Non, mais on a un public qui est très exigeant et qui nous en demande toujours plus. On a des jeux, que ce soit sur France 3 ou sur France 2, qui mettent en avant la culture populaire parfois, la culture plus académique, et des publics très fidèles. Voilà, ils nous en demandent toujours plus.
Ce qui a été demandé également, c'est la diversité et ils ont été entendus.
Oui, puisque là, il y a un vrai enjeu sociétal très, très important de représenter la France dans toute sa diversité. Le service public appartient aux Français. Chacun doit pouvoir se reconnaître sur nos antennes, quel que soit son âge, son origine.
Alors là, on est à la radio, donc on ne voit pas la couleur de peau des gens. Mais qui va-t-on voir arriver sur France Télévisions ?
L'idée, c'est vraiment d'avoir de nouveaux visages qui incarnent cette population. Donc, on va avoir de nouveaux magazines. Je pense qu'on va les détailler, mais autour du bien-être avec Ali Rebéi et Agathe Le Caron. On aura un rendez-vous avec Michel Simès. On a Jamy sur France 5 qui va.
On n'est pas dans l'université avec Michel Simès et Jamy.
La diversité, c'est l'ensemble de la population, quel que soit l'âge, l'origine. Donc, il faut représenter absolument tout le monde.
Peut-être
on a Karim Rissouli, dont c'est ce soir sur France 5. On a un jeune cuisinier malien qui est Maurice Sacco qui sera sur France 3 chaque semaine. Donc la diversité, c'est vraiment l'ensemble de la population française.
Alors, il y a 3 grands thèmes dans les nouvelles émissions que vous avez présentées hier. Le bien-être, la proximité, l'information. On va commencer par l'information. Il y aura notamment une émission de débat quotidienne sur France 5.
Débattre, c'est argumenter pour ne pas se battre. Alors, dans une société où les divisions se multiplient, pour arrêter la course à l'information et chercher ce qui fait sens, pour renforcer la place du débat d'idées à l'antenne, France 5 présente, c'est ce soir, Le Débat, le nouvel espace de débat quotidien.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour décrypter l'actualité de la semaine.
Karim Rissouli, entouré des journalistes Laura Adler, Camille Diao, Jean Birnbaume et Maxime Darquier, laisse place aux idées qui éclairent l'actualité et la complexité du monde. C'est ce soir Le Débat avec Karim Rissouli, du lundi au jeudi à 22h30, dès le 25 janvier, sur France 5.
Alors déjà, petit point marketing, il y avait C'est dans l'air, il y avait C'est à vous, Karim Rissouli présentait C'est politique, là ça s'appelle C'est ce soir et les émissions s'appellent avec un C sur France 5.
Oui, c'est la déclinaison d'une marque de fabrique qui est très reconnue du public et qui est voilà, cette intelligence accessible et qui est déclinée tout au long de la journée sur France 5.
Ils vont être contents d'entendre ça à CNews. Il y aura un présentateur, il y aura des chroniqueurs, il y aura également des invités évidemment.
Oui, des invités, des sociologues, des intellectuels, des scientifiques pour réfléchir, débattre autour des idées.
Vous savez quelle émission ça rappelle ? Ça rappelle évidemment Ce soir ou jamais. Des intellectuels, des sociologues autour de Frédéric Taddeï le soir en deuxième partie de soirée.
En tout cas, le débat d'idées a toujours été un marqueur de l'audiovisuel public. C'est vrai qu'on n'avait plus de programme un peu de ce type. Ouais. Et l'idée de créer avec Karim Rissouli et son équipe de chroniqueurs voilà, une émission dont on espère qu'elle elle deviendra une référence comme l'a été Ce soir ou jamais il y a une quinzaine d'années.
C'est ce soir, émission de débat d'idées. C'est la première pierre du dispositif de France Télévisions pour 2022, parce que dois-je le rappeler, 2022 c'est l'élection présidentielle. Donc j'imagine que vous avez... préparer un dispositif.
Évidemment traité, on a le temps, et Laurent Guimier en parlait hier lors de la conférence de presse sur le dispositif Info, on va le mettre en place, mais c'est en tout cas c'est un des fondamentaux du service public, de réfléchir. Il y a de l'info partout, tout le temps, et des opinions tout le temps. Là l'idée c'est plus de prendre le temps de réfléchir vraiment sur les idées et les idées de fond.
Laurent Guimier, qu'on connaît bien ici à Europe 1 et qu'on salue et qui est désormais le nouveau patron de l'info de France Télévisions. Info encore avec une nouvelle émission. Bah là aussi, ça commence par un C. Ça s'appelle C'est Jamy.
Accompagner les familles et le jeune public, stimuler la connaissance et la curiosité, éclairer les sujets d'actualité par le goût du savoir. Telle est l'ambition de France 5 qui, fidèle à son ADN, lance C'est Jamy, un nouveau magazine ludo-éducatif et familial.
Nous vous parlerons de science, d'histoire, de géographie, d'économie. Nous parlerons chaque jour de notre planète et d'environnement. Enfin, je répondrai aux nombreuses questions que me posent les épicurieux sur les réseaux.
Du savoir, du partage et de l'échange avec l'emblématique Jamy Gourmaud dans C'est Jamy, du lundi au vendredi à 17h, à partir de février, sur France 5.
Quelle sera la durée de l'émission et quelle émission va-t-elle remplacer ?
Alors on est sur un format de 26 minutes qui ouais. Est donc à 17h au moment du retour de l'école, du collège ou du lycée des enfants et des élèves. En termes de remplacement, en fait c'est une grille qui est un peu reconfigurée. On a arrêté l'émission Allô Docteur sur France 5. On a repensé le magazine de la santé dans une nouvelle formule qui intègre aujourd'hui l'interactivité avec les publics. Et donc du coup c'est ce jeu de Tetris un peu qui nous permet d'intégrer cette nouvelle émission à 17h sur France 5.
On vient de l'entendre, Jamy Gourmaud qui citait le mot « les épicurieux ». Or, il vient justement de lancer sa chaîne YouTube qui s'appelle justement « les épicurieux ». Est-ce qu'il va y avoir une passerelle entre les deux programmes ? Est-ce que c'est une manière aussi de rajeunir l'audience de France Télé ?
L'idée, en tout cas, c'est d'être au rendez-vous des programmes éducatifs et ludo-éducatifs. C'est-à-dire que de proposer au public d'apprendre tout en s'amusant. Jamy est quand même une figure de proue sur ce domaine-là.
Non, mais je veux dire par là, de faire une passerelle entre France Télévisions et YouTube.
En tout cas, de pouvoir être vu de l'ensemble de nos publics et d'avoir de l'impact, et notamment auprès des plus jeunes publics, dont on sait qu'ils sont aussi sur des plateformes numériques. Donc c'est important d'être au rendez-vous de ces publics, bien sûr.
Les nouveautés 2021 de France Télévisions, il y en a beaucoup d'autres. Il en reste 4 ou 5 ou 6, j'ai pas compté. On en parle avec le directeur des antennes du groupe, Florent Dumont. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Florent Dumont, le directeur des antennes du groupe France Télévisions, pour parler des nouveautés. C'est une sorte de la demi-rentrée, c'est la rentrée de janvier avec 9 nouveautés. Pour rajeunir l'audience de France Télévisions, Delphine Ernotte a également annoncé hier la mise en place d'un projet appelé Projet Phoenix, média social européen à destination des 15-24 ans. Qu'est-ce qu'on pourra y voir ?
L'idée, c'est de donner la possibilité aux jeunes de venir s'exprimer, d'être dans un média social, interactif. Il y aura une grande thématique autour de l'environnement. On sait que c'est un des sujets les plus importants pour les populations les plus jeunes et qui pourront venir s'informer, débattre, regarder des documentaires sur des thématiques qui les concernent. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller, là encore, toucher les publics les plus jeunes, là où ils sont, sur les plateformes numériques.
Pourquoi le choix de ce mot, Phoenix, c'est renaître de ses cendres ?
Écoutez, c'est un nouveau projet... voilà, qui a une ambition européenne et qui doit nous permettre de nous envoler ensemble.
En lisant le mot, je me suis posé la question dans la tête. Je vais revenir revenir à l'info encore. Parmi les nouveautés de cette rentrée, il y aura un journal plus long sur France 3. Le 19-20, oui. C'est comme le Paris-Dakar. Ça ne se passe plus à Dakar. Le 19-20 devrait commencer à 18h30 dès le 25 janvier. Oui. Il y a plusieurs syndicats qui demandent le report de ce lancement. Pas assez de moyens humains, disent-ils notamment. Ils appellent à la grève à partir du 18 janvier. Est-ce que vous allez repousser le lancement ?
Alors le lancement est prévu le 25 janvier. C'est vraiment l'idée de renforcer la régionalisation de France 3 et de donner dans chaque région la possibilité de démarrer plus tôt avec des formats qui seront différents selon les régions.
Est-ce que vous aurez les moyens techniques et journalistiques de le faire ?
On est en train de travailler pour avoir ces moyens.
France Télé va proposer deux nouveaux magazines consacrés à des affaires judiciaires. Affaires sensibles sur France 3, ce sera au printemps. Vous savez la date ?
Ce sera au printemps.
D'accord.
En deuxième partie de soirée sur France 3.
Vous n'avez pas envie de le dire, notamment pour ne pas donner cette information-là à la concurrence. J'explique à nos auditeurs pourquoi parfois les patrons de chaîne ne veulent pas donner les dates. Ils les ont, mais ils ne les donnent pas pour cette raison-là.
Et puis on travaille, on ajuste. Donc voilà, ça sera
au début. Et puis il y aura Au bout de l'enquête, c'est le titre de cette nouvelle émission sur France 2, présentée par Marie Drucker.
Aborder des affaires judiciaires dites cold case, les traiter avec exigence et qualité. Soigner le récit et l'image. C'est ainsi que France 2, pionnière en la matière, innove en proposant un nouveau rendez-vous original. Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait. Ce magazine nous éclaire sur ses faits divers, ses affaires classées, non élucidées, ayant connu des retournements de situations cruciaux. Cela grâce aux progrès techniques et scientifiques, mais aussi aux personnes tenaces qui se sont battues pour que la vérité éclate et pour que justice soit faite.
Vous allez refaire les enquêtes. C'est le remplaçant de Faites Entrer l'Accusé qui a fait les belles heures de France 2 et qui est parti désormais sur RMC Story.
En tout cas, comme le dit le petit extrait que vous avez diffusé, France Télévisions a été pionnier sur les émissions de faits divers. L'idée, c'est de réinvestir ce genre. On sait que les après-midi du week-end, les publics aiment regarder des histoires. Ça peut être sur les plateformes de SVOD. C'est un moment où les gens ont envie de se poser et regarder des histoires. Et finalement, ces histoires de faits divers, là où les technologies ont aidé à faire avancer l'enquête, voilà, on s'est dit que c'était un créneau intéressant.
Ce qu'il y a de nouveau dans ce créneau, puisque vous en parlez, c'est qu'autrefois, Faites Entrer l'Accusé, c'était une émission de deuxième partie de soirée, et là, pas du tout. La programmation de cette émission, Au bout de l'enquête, ça sera le
samedi en début d'après-midi sur France 2.
Le samedi à 14h. Oui. France Télévisions mise également sur le bien-être avec deux nouveaux magazines sur la 2, Bel et Bien, le samedi matin, et Antidote, c'est le dimanche en fin d'après-midi. Émission présentée comme familiale, elle va parler de science et de médecine. Elle sera incarnée par je ne connaissais pas ce nom. Michel Simès, qui était notre invité il y a encore trois jours. Michel Simès, écoutez, il présente déjà quatre émissions. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, prenez soin de vous. Il a son talk show et une autre émission dont le titre m'échappe à l'instant. Plus, il va jouer dans un téléfilm Cambrousse diffusé sur France 3 et qui peut devenir une série si ça marche. Et ça risque de marcher. Vous allez finir par nous le rincer, Michel Simès.
Il est en pleine forme. C'est un des animateurs préférés des Français, voire un Français préféré des Français, j'ai envie de dire.
Je pose vraiment la question à dessein. Est-ce que c'est pas trop user un animateur que de le mettre trop en avant et trop... Vous êtes posé la question, évidemment.
Oui, et il était habitué aussi à des rythmes quotidiens chez nous avec le magazine de la santé. Là, on est sur des émissions plus événementielles, comme hier soir avec les pouvoirs du corps humain ou avec Prenez soin de vous. Là, on sera sur un rendez-vous récurrent le week-end. Je lui fais confiance pour adapter son agenda.
Et ça a marché hier soir.
Ça a très bien fonctionné, oui. Ouais, voilà.
Et nous le recevions avant-hier, il nous en a parlé. Il y aura également le retour d'Anne-Elisabeth Lemoyne et de Patrick Cohen, ça va être sur France 2. Ils vont continuer à animer 6 à la mise... 6 à la maison, c'était une émission culturelle qui avait été lancée au début du couvre-feu en octobre dernier. Émission presque improvisée et qui a vraiment tenu ses promesses même au-delà. Ça dépassait parfois le million. Oui. À 7h06, quand même quelque chose. Émission quotidienne qui va devenir hebdomadaire. Il y avait encore un doute hier sur le jour et l'heure de diffusion. Le doute élevé.
Absolument, ce sera le mercredi dès le 27 janvier.
Il y aura des changements dans l'émission. Qu'est-ce qu'on va voir ? Qui va-t-on voir ?
Bah écoutez, on va retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne, Patrick Cohen, Bertrand Chamerois, je crois. Et voilà, et l'idée, c'est que vraiment, cette émission, comme vous le disiez, elle a été montée très très rapidement. Je salue d'ailleurs le travail des équipes de la direction des programmes et de la production de l'émission.
Et Pierre-Antoine Capeton.
Très, très rapidement. Et Pierre-Antoine Capeton. Et c'est vrai qu'on a eu des retours très très positifs, à la fois d'audience, mais aussi qualitatifs, de cette émission, qui prend le temps, là aussi, d'écouter les invités, de parler de culture. Et donc, on a voulu garder cette émission au-delà de cette période très particulière de couvre-feu et de confinement.
Donc je le redis, ça sera le mercredi à 22h30 à partir du 27 janvier. Un mot sur votre axe de stratégie, rapprochement avec Radio France. Deux de vos nouveaux animateurs viennent de France Inter, Fabrice Drouel et Ali Rebilly, pour des émissions qui ressemblent beaucoup à celles qu'ils animent à la radio. Dans le cas de Fabrice Drouel, c'est même exactement le même titre. Affaires sensibles, je la retrouve. Est-ce que c'est un test avant le début d'un rapprochement plus poussé entre la synergie entre la télévision et la radio?
La synergie, ça fait longtemps qu'elle existe. France Info en est un très bon modèle, qui est à la fois une chaîne de télévision, une radio, une plateforme numérique construite ensemble.
Et votre patron,
c'est de travailler.
Et votre patron de l'info, Laurent Guimier, oui, vient de la chaîne de radio France Info.
Exactement. Donc on est avec nos partenaires de l'audiovisuel public. La consultation citoyenne dont je vous parlais, on l'a faite avec eux. Et l'idée, c'est vraiment de travailler régulièrement ensemble, de proposer des projets, des bonnes idées, et de pouvoir mutualiser ces bonnes idées et de faire des passerelles entre la radio et la télévision.
À l'instar de la même stratégie suivie par le groupe M6, Julien Courbet et Karine Lemarchand sont à la fois sur RTL et sur M6, et dans le groupe Altice, avec, entre RMC et RMC Découverte. Quelques sujets encore qui vont marquer l'année de France, oui, Télévisions. Le 13h de France 2 pour commencer. Julien Bugier, qu'on a pris les commandes avant-hier. Vous avez vu les audiences ?
Oui, on est encore à 3 millions de téléspectateurs hier et quasiment 22% de part d'audience. Donc c'est un joli succès. L'idée, c'est vraiment d'installer dans le temps. C'est quand même un grand changement. Deux nouveaux animateurs sur les deux 13h des deux principales chaînes. Et donc, ouais, évidemment, les publics vont trouver de nouveaux repères, de nouveaux rendez-vous. Et on est très confiants dans ce journal de Julien Bugier où la proximité est renforcée. Il était hier en Bourgogne sur des idées vraiment de proximité et d'utilité pour les publics.
France 4 va bien s'arrêter l'été prochain.
Alors France 4 doit s'arrêter à ce que l'on sait en août prochain, c'est une des décisions du gouvernement. Nous on travaille sur notre programmation et nos contenus pour les enfants quoi qu'il arrive, ouais, des contenus divertissants, des contenus ludo-éducatifs. Voilà, on poursuit la programmation de France 4 tant qu'elle est là, mais on prépare aussi l'avenir. À la fois, c'est jamais mis sur France 5, c'est une façon de prendre le relais sur la dimension ludo-éducative, sur le numérique aussi, avec Oku, avec Lumni, qui sont des plateformes qui ont vraiment vocation à accueillir ces enfants.
Autre manière de préparer l'avenir, France 4, c'est sur le canal 14 de la TNT, qui, si France 4 s'arrête, va être libre. C'est vous, France Télévisions, je vois votre sourire, que vous avez mis derrière la tête, qui allez continuer à l'occuper.
Alors, hier, la présidente de France Télévisions, Delphine Arnault, a émis un vœu, c'est que France Info puisse remonter dans la numérotation de la TNT. Maintenant, ce n'est pas notre
France
décision.
France Info qui est au canal 27.
Qui est au canal 27 aujourd'hui. Il y a une consultation publique en ce moment. C'est le CSA qui prendra la décision. Mais donc, je relais, je m'inscris dans les pas de ma présidente en formulant le même vœu.
France Télévisions, c'est le premier groupe de visuel. Maintenant, si on additionne toutes les chaînes, 28,8% de part d'audience l'an dernier. TF1 est deuxième avec 26,9%. On baisse tous les deux. C'est quoi votre objectif pour 2021?
En tout cas, c'est de continuer à avoir de l'impact. Moi, il y a un chiffre qui m'intéresse aussi beaucoup au-delà de ça, c'est que chaque semaine, on touche 80% des Français. Plus de 80% des Français regardent un programme sur une de nos antennes, télé ou numérique. Et c'est de poursuivre cet impact, c'est-à-dire l'universalité, c'est de toucher le plus grand nombre de téléspectateurs possible, tout en étant utile. Il n'y a pas que l'audience qui compte dans le service public, c'est aussi l'originalité, les qualités éducatives de nos programmes. Et je crois que beaucoup des formats qu'on a évoqués ce matin ont vocation à remplir cette belle mission.
Merci beaucoup, Florent Dumont. Je rappelle que vous êtes directeur des antennes de France Télévisions. Et nous, dans un instant, on va parler d'une nouvelle émission qui met en avant des femmes camionneuses qui parcourent des milliers de kilomètres sur des routes de France et d'Europe au volant de camions de 44 tonnes. On sera avec l'une d'entre elles, elle s'appelle Lexi, et le patron des programmes de Warner Bros. France, Renaud Rare. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Renaud Rare.
Bonjour Philippe Vondel.
Vous êtes producteur, directeur des programmes de Warner France et vous connaissez bien le métier. Vous mettez le micro en face de vous après avoir déjà mis le masque. Bonjour Lexi.
Bonjour.
Où êtes-vous Lexi? Est-ce que vous êtes dans votre camion?
Non, actuellement je suis chez moi.
Vous êtes chez vous où?
À Avenches.
Avancez. On est en Suisse, à côté de Lausanne. Votre actualité à tous les deux, c'est Les Reines de la Route. C'est un programme qui démarre demain sur Sister, ça sera à 21h. Puis tous les jeudis, c'est 8 épisodes de 50 minutes. Sister, je précise, une des chaînes du groupe M6, c'est le canal 22 de la TNT. Vous avez quel âge, Lexi ?
J'ai 22 ans.
Comment vous appelez votre profession ? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre passeport ?
Conductrice poids lourd.
Il n'y a pas écrit camionneuse ?
Non, absolument pas.
Ça fait rire Renaud Rare, mais il comprend très bien l'intérêt de l'émission. Il le comprend d'autant mieux que moi qu'il est le producteur. C'est contre-intuitif. Quand on dit camionneuse, ça signifie une femme très masculine qui ne fait pas attention à elle. Là, c'est totalement l'inverse. Renaud Rare, c'est quoi l'idée de ce programme Les Reines de la Route? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qu'on voit?
Ce qui nous a intéressé, c'est de découvrir une population qui, justement, ce sont des femmes fortes, mais pas forcément des camionneuses comme on l'a dans l'idée. On peut avoir le permis super lourd, on peut dormir 4 ou 5 nuits par semaine dans la cabine de son camion et être une femme dans toute l'acception du terme et toutes les différentes manières de l'être, de 22 ans comme Lexi à 50 ans comme Christelle.
Vous avez suivi 7 femmes, comment vous les avez choisies? Je vais plutôt d'abord poser la question à Lexi. Lexi, comment avez-vous été choisie? Comment s'est fait la rencontre?
Alors moi, en vrai, on m'a contacté sur Instagram en message privé.
Ouais. Et vous avez dit oui tout de suite ?
Oui, sauf que j'étais pas au courant que c'était pour une émission télé au tout début.
Ah bon, vous pensiez que c'était quoi ?
Je sais pas, un reportage, c'est une personne en privé qui m'a écrit et du coup, je pensais que c'était pas du tout à voir avec la télé. Mmh. Et du coup, quand j'ai bien partagé, bah, j'ai dit oui et puis bah, c'est une bonne surprise.
Alors, je vais donner les chiffres. Il existe 210 000 chauffeurs routiers en France, dont 5% de femmes. Donc, ça fait 10 000 femmes qui conduisent ces énormes poids lourds, ces 35 ou 44 tonnes. Vous suivez 7 femmes dans l'émission. Comment ont-elles été choisies, Renaud Rare ?
Elles ont été... Alors, d'abord, c'était, on va le dire, assez facile comme casting parce que quand on est une femme, qu'on décide de passer le super lourd, d'inventer sa vie, sa liberté en conduisant son camion, on a plutôt une personnalité et une forte personnalité. Après, c'était différence d'âge, différence de manière d'aborder la vie. Celles qui sont célibataires, celles qui sont en couple, celles pour qui c'est le premier emploi, celles pour qui, au contraire, c'est un emploi après une vie très longue dans laquelle elles ont fait plein de choses. Donc, c'est l'éventail des différentes situations que nous pouvions rencontrer. On voulait évidemment des femmes qui soient positives et qui parlent et qui existent quand elles sont devant la caméra.
Ouais, alors je vais le dire, il y a Lexi qui est présentée comme l'audacieuse, il y a également Sarah l'exaltée, Jennifer la Vénus de la route, Christelle la pile électrique, Émilie l'ardente, Maïlys l'ingénue et Diane l'aventurière. Ceci dit, elles sont toutes féminines, alors qu'elles, j'ai vu l'émission, j'ai vu le premier épisode, alors qu'elles passent toute leur journée dans leur camion, elles commencent quasiment toute leur journée de travail par se maquiller, y compris dans le camion. Pour quelle raison, Lexi ? Parce que vous aussi, on vous voit commencer votre journée de travail dans un camion où vous êtes toute seule, je le précise, par le maquillage.
Bah parce que je suis assez féminine et puis j'aime bien avoir une bonne image d'entreprise et bien présentée envers mes clients.
Ouais.
Et puis c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un qui est entretenu et préparé avec le sourire à accueillir.
Vous êtes en Suisse, vous êtes à côté de Lausanne. Pourquoi vous avez choisi ce métier, Lexi, pour faire comme votre papa ?
Exactement.
Voilà, je ne m'attendais pas à une réponse aussi courte. Parfois, je galère pour demander aux gens de faire des réponses moins longues. Ça me fait ce exactement.
Là, ça manque de relance.
Me réjouis, pas du tout. Alors, ces femmes-là, elles ont un point commun. C'est qu'elles entretiennent, dans cette série, un rapport très particulier avec leur entourage. On va entendre Sarah, que vous présentez comme l'exaltée. Elle a 29 ans, elle est en Mayenne. On écoute Sarah.
Elliot, quand je l'ai eu, je trouvais qu'il avait vraiment une tête à s'appeler Elliot. J'ai besoin de le bichonner parce que, bah, mine de rien, c'est mon compagnon aussi, quoi. C'est lui qui me transporte partout, c'est lui qui me tient chaud la nuit, c'est lui qui me tient compagnie, c'est lui qui m'écoute quand je vais pas bien. Quand j'ai fait des petits gratouillis et que j'y vais prendre sa petite douche, moi, c'est que du bonheur. Effectivement, Elliot, c'est un coup de foudre parce que c'est le premier avec lequel, quelque part, je me sens aussi bien.
On dirait presque l'amour mais est dans le pré.
Mais
on
de
croit
qui on parle ?
Eh bien, elle ne parle pas d'un garçon, elle ne parle pas d'un labrador, elle parle de son camion. Vous êtes d'accord, Lexi, avec ce parallèle ?
Écoutez, moi, personnellement, je ne vais pas dire que je suis plus en accroche avec le métier qu'avec le camion actuel avec lequel je roule.
Ouais.
Mais après, pourquoi pas le jour où j'aurai mon camion, parce que c'est une vision d'optique peut-être à l'avenir d'acheter mon camion personnellement. Ouais. Peut-être, oui, je pense que je serai comme ça aussi.
Oh, dites donc, quand même, dans le doc, vous dites au sujet de votre voiture, vous dites c'est l'amour de ma vie, je ne pourrais pas vivre sans elle. Et quand même, la voiture, c'est rien à côté de ce que vous dites à propos de votre camion. Ça commence par une comparaison assez osée.
Plus c'est grand, mieux c'est, quoi, comme on dit. L'avantage du camion, c'est comparé à un homme, ça ferme sa bouche. Donc voilà, il y a moins de disputes, moins d'embrouilles, moins de prise de tête. Donc beaucoup de qualité.
C'est vrai qu'un camion, c'est mieux qu'un homme ? Ça, c'est vous qui l'avez dit.
Par expérience, oui.
Mais c'est vraiment ce que pensent toutes les femmes routières de leur camion, Renaud Rare, ou c'est un focus mis volontairement en avant par la production ?
Je ne sais pas si ce sont toutes les femmes. Ouais. En tout cas, toutes les femmes qui sont dans les rênes de la route ont un rapport charnel, affectif avec ce camion, avec leur camion. Elles l'aiment, c'est leur compagnon, ou en tout cas leur premier ou deuxième compagnon, suivant leur situation, oui.
Comment ça se passe au quotidien ? Parce qu'il y a cette dimension, si j'ose dire, sentimentale, mais aussi une dimension sociale, une dimension pratique. On en parle dans Culture Média, Lexi et Renaud Rare. Vous restez avec nous, on parle des reines de la route. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Renaud Rahard.
Merci.
Directeur des programmes. C'est le masque, c'est pas facile de vous le dire. Hein. Si on pouvait, on enlèverait ce masque, vivement qu'on puisse l'enlever. Renaud Rahard, le directeur des programmes de Warner Bros. France qui produit Les Reines de la Route. C'est une création à vous, c'est un format, Les Reines de la Route?
C'est un format allemand au départ que Jean-Louis Blau, le patron de Warner, et la directrice de développement, Déborah Fazel, ont repéré et sur lequel on a pris une option et qu'on a développé et proposé au groupe M6.
Ça montre la vie de sept jeunes femmes, pas seulement jeunes, une grande pyramide des âges qui conduisent d'énormes camions.
Même si à 50
camions.
Ans, on est très très jeune, Philippe.
Oui, merci de me le dire. Le gars qui me renvoie un petit tac. Lexi qui conduit un énorme camion. C'est pas un semi-remorque, Lexi. C'est un poids lourd plus une remorque. Ça s'appelle comment ?
Un camion-remorque.
Ah bon, voilà. Alors, dans l'émission, ça s'appelle un train routier. Donc, j'ai appris une expression, mais vous-même, vous la connaissez pas. Donc, c'est encore tant mieux et ça montre la franchise de cette chose. 44 tonnes. Pardon de vous poser cette question aussi basique. Quel effet ça fait de piloter 44 tonnes quand on est toute seule sur l'autoroute et sur les routes de campagne ou qu'on se paume dans la cambrousse la nuit ?
Alors, précisément, c'est un 40 tonnes parce qu'en Suisse, c'est interdit les 44 tonnes. Et ensuite, après, c'est une sensation vraiment de liberté. C'est vraiment, on est dépendant de nous-mêmes. Et puis franchement, c'est tous les jours une aventure. Je trouve ça très excitant, personnellement.
Alors, il y a également le problème de la langue. Quand il faut décharger le camion, vous ne parlez pas anglais, vous ne parlez pas allemand, vous ne parlez pas italien. Comment ça se passe sur le terrain avec vos collègues ? Réponse.
You must do it all by yourself for the camera, or we need to help you.
For the remorque.
For the remorque, comme tu veux. Voilà, vous parlez vraiment très très bien.
On essaye, on se débrouille.
Alors, vous n'éludez pas les problèmes. Dormir toute seule dans un camion, c'est pas facile. Il y a les vols sur les aires de repos. C'est un métier très difficile. Il y a une pression énorme, notamment il y a des délais à tenir. C'est pas tout sourire, ce métier.
Non, effectivement, c'est beaucoup de contraintes dans la vie personnelle, parce qu'on fait aussi beaucoup d'heures supplémentaires, que ce soit même au niveau de la neige, qui est aussi assez dangereux, au niveau des routes, les accidents, les bouchons, enfin tout ça, tout le monde connaît ça.
Oui, tout le monde connaît ça, mais tout le monde n'est pas obligé de dormir dans sa voiture. Tout le monde n'est pas forcé d'avoir interdiction de rouler davantage de 4h30 d'affilée. Vous avez des contraintes terribles. Vous avez le client qui n'est pas content si vous êtes en retard. Si la livraison ne se fait pas à l'heure, il faut la faire le lendemain. C'est vraiment pas facile. C'est un métier où l'impression qu'on en a, c'est que ça devient de plus en plus dur. Ou est-ce que vous êtes trop jeune pour avoir le recul pour répondre à cette question ?
Non, alors personnellement, je dirais même pas que c'est un métier, c'est plutôt un mode de vie.
Ouais.
Déjà. Et après, c'est vraiment une habitude à prendre. C'est beaucoup de stress à gérer, que ce soit avec les clients ou autres. Mais après, c'est comme dans chaque métier, on a toujours un stress différent. Et puis nous, particulièrement, c'est quand même assez prenant et difficile.
Renaud Rahard, vous dirigez les programmes de Warner TV France. C'est bien ça, c'est l'appellation. Quelles autres productions vous avez ?
Nous avons, par exemple, avec le groupe M6, Les Mamans. Toujours sur Sister.
Ça cartonne, ça.
Ça marche bien. Mon incroyable famille sur M6, qui a démarré lundi.
Ça a démarré timidement, Mon incroyable famille. Vous pouvez raconter le principe de l'émission ?
Le principe, c'est de suivre donc en documentaire le quotidien de familles qui sortent de l'ordinaire. Elles sortent de l'ordinaire de par leur situation de vie. On a des gens qui sont partis en bateau pour un an avec leur famille. On a des gens qui sont partis avec une petite maison qu'ils tractent derrière leur camionnette pendant un an. Ou des familles très nombreuses. Par exemple, une famille de 11 enfants ou par exemple une famille avec 3 paires de jumeaux. Donc comment on s'organise quand on a ce type de famille ?
On a fait un florilège de ce qu'on peut entendre et voir à l'antenne. Florilège.
Je m'appelle Estelle, j'ai 30 ans et je suis ostéopathe.
Je m'appelle Benoît, j'ai 32 ans, je suis ancien pompier de Paris.
Nous habitons sur notre voilier depuis 3 ans et nous avons le projet fou de traverser la Méditerranée et l'Atlantique avec nos deux filles.
Je m'appelle Teddy, je suis le papa de Lenny, Tino et Cody et le mari d'Anne-Sophie.
Cody est né avec une syndrome de Wachtel.
C'est une maladie rare. Il y a 7 lettres, 7 malformations.
Je suis Sylvia, j'ai 40 ans.
Je suis Cédric, j'ai 42 ans. Nous avons décidé de vivre à bord d'une tiny house pour découvrir l'Europe avec nos 3 filles.
Hola !
Je m'appelle Priscilla, j'ai 34 ans.
Je m'appelle Nicolas, j'ai 34 ans.
Et nous sommes parents de 5 enfants.
Il y a 9 mois, nous avons eu des triplés.
J'ai pas prévu d'avoir 3 bébés d'un coup.
Pas du tout.
On entend les bébés qui braillent derrière, contrairement à ce qu'on entend dans ce studio. Les audiences, j'ai dit, ça a démarré timidement.
Il faut que ça s'installe.
Ouais.
Bah oui.
Bon, d'accord, je vais le dire.
Les mamans, ça avait commencé tranquille aussi. Il faut le temps de s'attacher à ces personnages, de les découvrir, d'avoir envie de les retrouver, de nous repérer sur la grille des programmes. Donc voilà.
Les mamans, émission phare de la chaîne Sister. Cette année, c'est la 4e saison. Il y aura une 5e saison ?
Je ne sais pas encore.
Il faut quelle audience pour avoir une cinquième saison? Vous le savez, vous le savez pas?
C'est... Je ne sais pas exactement comme ça que ça se passe, ou alors je ne le sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas la réponse.
Vous dites que les mamans, c'est pas de la télé-réalité. Quelle différence vous faites avec la télé-réalité?
Ben bien sûr que non, c'est pas de la télé-réalité. La télé-réalité, il y a des dispositifs et on provoque des situations entre les gens. Nous, c'est du documentaire, on les suit. La rédaction appelle les familles, discute, vous allez faire quoi cette semaine? Ça va se passer comment? Ok, on va aller tourner ça, ça et ça. C'est vraiment du doc. Et on les suit au jour le jour, dans leur vie, qu'on soit là ou pas.
Lexi, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez agi exactement pareil quand il y avait un caméraman ou une caméraman avec vous, plutôt que quand vous étiez seul? Est-ce que vous avez retourné des séquences, par exemple?
Non, pas spécialement. Ou alors que c'était peut-être juste des prises mal faites ou des réglages à faire. Mais non, pas particulièrement, non.
Vous n'avez pas fait de choses spécialement pour la télévision. Warner TV, ça a à voir avec Warner ce que vous faites ou pas du tout? Parce qu'il y a une chaîne qui s'appelle Warner TV.
Alors nous, c'est TV Production. On produit aussi Affaires Conclues, par exemple, sur France 2 l'après-midi. Mmh.
Ça cartonne.
Ça marche très, 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 très bien. Donc, on appartient, les actionnaires sont Warner, mais nous ne sommes pas une chaîne de télévision, nous sommes une société de production.
Vos prochains projets, vous pouvez les dire, ou tout ça est secret, justement? Secret industriel.
On va laisser les diffuseurs les annoncer, oui.
Lexi, vos prochains voyages?
Actuellement, je ne sais pas encore.
Vous ne savez pas. Est-ce que ça vous a donné le goût de faire de la télé, cette émission Les Reines de la Route?
Bah oui, franchement, une fois qu'on y participe, c'est une bonne expérience, franchement, j'aime bien.
Mais vous voudriez en refaire?
Pourquoi pas, si l'occasion se présente.
Voilà, parce qu'il y a quelque chose, pour avoir vu l'émission, il y a quand même beaucoup de ces jeunes femmes qui ont beaucoup, beaucoup de charisme et qui sont très attachantes. Merci beaucoup Renora, merci beaucoup
merci,
Lexi.
Philippe Bandel.
Je rappelle, Les Reines de la Route, c'est demain sur Sister à 21h, et puis ça sera tous les jeudis 8 épisodes de 50 minutes. Culture Média continue, il y aura le rappel des titres de 10h, et puis on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un documentaire très réussi sur la vie et l'œuvre de Charlie Chaplin, et Bertrand Chamerois pour son écran de veille, il a regardé Ensemble c'est mieux sur France 3. Et puis notre invité, c'est François Reinhardt, le journaliste et écrivain, pour son livre La Grande Histoire des Nouveaux Mondes. Et puis dans Les Indispensables, le grand retour du chanteur Eddie Depreto et le spectacle de Manu Payet, disponible gratuitement. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs? Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor? Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.